Nous voici en cette deuxième rencontre du catéchisme pour adultes. Après avoir parlé de Dieu le Saint-Esprit, un peu d'abondance de cœur la semaine dernière, nous entrevoyons aujourd'hui un thème bien particulier, ce qu'est un sacrement. Qu'est-ce donc qu'un sacrement ? Puisque parmi nous, certains se préparent à recevoir le sacrement de la confirmation, il est bon, avant de nous arrêter sur le sacrement de la confirmation, eh bien d'envisager chacun des sept sacrements, qu'est-ce qu'ils ont en commun. Pour cela, il nous faut revenir au commencement, lorsque Adam et Ève ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu et placés dans ce jardin. Adam et Ève étaient graciés, c'est-à-dire qu'ils étaient bénéficiaires de cette grâce de Dieu. Cette grâce de Dieu, on pourrait dire, c'est cette force que Dieu pouvait leur donner, mais c'est avant tout cette amitié avec Dieu. Nous avions vu que dans ce jardin, le soir, à la brise légère, voilà que Dieu descendait dans le jardin pour rencontrer librement Adam et Ève. Et qu'ensuite du péché, quelque chose de cette relation avec Dieu, eh bien, s'est cassé. Eh bien, voilà que la grâce que le bon Dieu va nous donner dans les sacrements est là pour restaurer cette alliance, restaurer cette amitié avec Dieu. Qu'est-ce donc qu'un sacrement ? Eh bien, il y a trois choses qui vont constituer chacun des sept sacrements. Tout d'abord, un sacrement, c'est un signe sensible, un signe qui nous est donné. Alors pourquoi le mot signe ? Parce que le sacrement, il va signifier quelque chose que je ne vois pas avec mes yeux. C'est vraiment ça qui est important. Le sacrement, c'est un signe qui est efficace pour recevoir la grâce. Alors, le sacrement, on dit c'est un signe, oui, un signe sensible qui va s'adresser à nos sens. Donc, il va y avoir un certain nombre de gestes, de paroles qui vont accompagner ces gestes, qui vont venir représenter une réalité, celle de la grâce, que nous ne voyons pas avec les yeux, que nous ne pouvons pas expérimenter avec nos cinq sens. Le mot « signe », c'est quelque chose de très simple. Nous en utilisons chaque jour des signes sans forcément réfléchir sur le sens des signes. Lorsque nous prenons notre voiture et que nous voyons un feu passer au rouge, eh bien, nous nous arrêtons. Lorsque nous voyons que le feu est devenu vert, eh bien, nous redémarrons et nous avançons. Ce sont les feux tricolores, ne sont que des signes qui sont donnés. Un signe qui n'est pas efficace en lui-même, parce qu'on peut très bien griller le feu rouge. Mais voilà que déjà le signe du feu rouge nous dit « je dois m'arrêter ». Eh bien, dans les sacrements, il y a également un certain nombre de signes. De signes, mais qui, eux, vont être véritablement efficaces. Si le feu rouge ne peut pas faire arrêter lui-même les voitures, c'est le conducteur qui décide d'être sujet de la loi et de s'arrêter. En revanche, le signe que je reçois dans les sacrements, il est efficace et il vient me communiquer la grâce. Donc, le sacrement, il s'enracine dans un signe sensible qui est donc en vue de nous communiquer la grâce. Ces sacrements, qui sont au nombre de sept, eh bien, ont été chacun institués par notre Seigneur Jésus le Christ. Pourquoi le Seigneur a institué les sacrements ? Parce qu'il veut rétablir cette vie de la grâce, et il veut surtout aussi que nous soyons confortés, assurés de bien recevoir la grâce lorsque nous recevons les différents sacrements. Donc, le sacrement est constitué de signes sensibles. Si nous prenons le cas du baptême, eh bien, il va falloir qu'il y ait déjà une matière, il va falloir qu'il y ait de l'eau. Il va falloir qu'à cette eau, il y ait un geste, le fait de verser de l'eau sur le front de l'enfant. Il va falloir qu'il y ait des paroles. « Je vous baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il y a donc une réalité sensible et c'est un signe qui manifeste eh bien, que Dieu nous communique la grâce et le baptême nous ouvre la possibilité eh bien, de recevoir l'ensemble des autres sacrements. Cette grâce que Dieu nous communique dans les sacrements, c'est une participation à la vie même de Dieu. C'est donc quelque chose qu'il ne faut pas minorer, c'est quelque chose au contraire que nous devons toujours recevoir avec de la préparation, que ce soit le sacrement de la communion où le Seigneur se donne lui-même pour venir nourrir notre âme. Eh bien, nous devons toujours être bien préparés et conscients également que Dieu se communique et que Dieu me fait participer à sa vie lorsque je reçois eh bien, les sacrements. Alors, le sacrement, qu'est-ce qu'ils vont faire, quel qu'il soit ? Soit il va produire, soit il va augmenter la grâce. Le sacrement du baptême, on peut dire qu'il produit la grâce, puisque c'est le premier des sacrements. Mais il y a des sacrements qui vont avoir ensuite un effet spécifique. C'est ce qu'on peut appeler, en spécifiant ça, la grâce sacramentelle, qui est la grâce du sacrement. Le sacrement du baptême donne telle grâce, le sacrement de la pénitence en donne telle autre, le sacrement du mariage, telle autre encore. Alors, pour voir un petit peu cela, il faut comprendre qu'il y a des sacrements qui vont, eux, imprimer en nous de façon indélébile une empreinte qu'on appelle en théologie sacramentaire un caractère. Je vous lis cette phrase de saint Paul, « Dieu nous a oint de son onction ». Et effectivement, pour le sacrement du baptême, pour le sacrement de la confirmation, pour le sacrement de l'ordre, il y a un certain nombre d'onctions, nous sommes oints avec lui le saint. Donc « Dieu nous a oint de son onction ». Il nous a marqué, nous dit saint Paul, de son sceau, il a mis comme gage le Saint-Esprit dans nos cœurs. Et on voit bien quand saint Paul nous dit ça, il nous a marqué de son sceau, c'est bien que le sceau hein, qui vient frapper, eh bien ce sceau, ça montre bien que le sacrement va développer en nous un caractère, une empreinte, une marque indélébile qui vient profondément marquer notre âme et qui ne peut jamais être effacé. C'est l'ensemble des sacrements n'imprime pas des caractères. Il y a trois sacrements qui vont nous donner ainsi un caractère définitif. C'est la raison pour laquelle ce sont des sacrements que nous ne pouvons pas recevoir une autre fois. Il s'agit du sacrement du baptême. Voilà que de façon indélébile, mon âme est marquée. Voilà que je suis lavé du péché originel, que je suis restauré dans l'ordre de la grâce, que je suis enfanté à la vie divine, c'est indélébile. Bien sûr, certains peuvent faire annuler leur baptême. Il s'agit juste d'une démarche administrative sur laquelle on raye le registre. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas revenir sur tel jour, à telle heure, en présence de témoins, de mes parents, de mon parrain, de ma marraine. J'ai été baptisé, c'est-à-dire le prêtre, avec l'intention de me baptiser, à verser l'eau, à prononcer les paroles, j'ai été oint, ça on ne peut pas l'effacer. Ben voilà que ce qui ne peut surtout pas être effacé, c'est le fait que Dieu, eh bien, se soit comme approprié notre âme. Ensuite, il y a bien sûr le sacrement de l'ordre, qui va également marquer une empreinte indélébile sur cette parole, hein, qui est de l'Ancien Testament, vous êtes prêtre pour l'éternité. Voilà. Et puis, il y a également le sacrement de la confirmation qui vient imprimer en nous un caractère. Et comme le disait saint Paul dans cette citation, non seulement il nous a marqué de son sceau, mais il a mis comme gage le Saint-Esprit dans nos cœurs. Alors, une fois qu'on a un petit peu ça en tête, donc, il y a trois choses qui constituent les sept sacrements. Un signe sensible qui est institué par notre Seigneur Jésus le Christ. On a pour certains le récit évangélique, le reste est tenu fermement par la tradition et le Concile de Trente nous rappelle bien que l'ensemble des sept sacrements a été institué par notre Seigneur Jésus le Christ. Et le troisième point, c'est que pourquoi est-ce que le Seigneur a voulu passer par les sacrements ? C'est pour nous communiquer ou pour augmenter la grâce dans une âme. Et cette grâce, je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment cette amitié avec Dieu. Alors, les sacrements. Il y a 7 sacrements, les 3 premiers qu'on appelle de l'initiation chrétienne, que sont le baptême, la confirmation et ce que l'on appelle la première communion, l'accès à l'Eucharistie. Ce sont les sacrements de l'initiation chrétienne. Il faut avoir reçu ces 3 sacrements pour pouvoir être pleinement chrétien. Ensuite, il y a les sacrements qu'on pourrait dire de réparation. Il y a le sacrement de la confession et le sacrement des malades. Et enfin, il y a des sacrements d'état de vie que vont être l'ordre et que vont être le sacrement du mariage. De telle sorte que les 7 sacrements, voyez-vous, ils correspondent à l'ensemble de la vie chrétienne, à ce qu'on appelle la vie naturelle de notre vie chrétienne, et qui nous accompagnent donc du berceau jusqu'à la tombe. Nous regardons à présent un schéma qui se distingue de 2 parties, la vie naturelle et la vie surnaturelle. Alors la vie naturelle, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le fait que Dieu nous ait disposé sur la terre pour que nous menions une vie naturelle, c'est-à-dire c'est la vie de notre corps et c'est la vie de notre âme. Qu'est-ce qui fait que nous sommes hommes ? Eh bien, c'est l'union de notre corps avec notre âme. Ça, nous l'avons vu abondamment dans le précédent cycle de catéchisme. Cette vie naturelle, mais qu'est-ce qu'elle fait cette vie naturelle ? Eh bien, il faut d'abord être conçu et être enfanté. Nous naissons dans le monde, c'est ce qu'on appelle notre vie naturelle. Qu'est-ce qu'il se passe après ? Eh bien, en étant enfant, on est élevé par nos parents, nous grandissons et nous nous fortifions. Bien sûr, pour pouvoir ainsi grandir et être fortifié, nous prenons de la nourriture. Donc, vous voyez, c'est vraiment la vie naturelle. Lorsque nous tombons malades, que nous sommes souffrants, nous nous efforçons de trouver des remèdes contre telle et telle maladie. Enfin, puisque nous sommes vivants ici-bas, nous savons aussi que la mort fait partie de la vie, hein, et que le moment arrive où la vie de la terre va se terminer. Donc vous voyez, ça c'est un peu les grandes étapes de la vie naturelle. Eh bien, à ces grandes étapes de la vie naturelle, voilà que le bon Dieu a tout préparé pour notre vie surnaturelle, qui est cette vie de notre âme avec Dieu. Rappelez-vous, lorsque nous avions vu la fin, la finalité pour laquelle nous sommes ici-bas sur la terre, nous avons vu qu'il y avait 2 finalités. Il y a la première finalité qui est la finalité surnaturelle. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu pour être adoptés par Dieu. Ce dessein de l'adoption filiale, Dieu veut faire de nous des fils. Et je vous avais bien invité à bien mémoriser cette phrase. Nous avons à devenir par la grâce ce que le Fils de Dieu est par nature, le Fils du Père. Nous avons à devenir par la grâce ce que le Fils est par nature, Fils de Dieu le Père. Voilà la raison pour laquelle Dieu nous donne dans ses sacrements cette grâce pour véritablement nous adopter pleinement, nous faire renaître et de l'eau et de l'Esprit Saint pour véritablement être déjà vivants de cette vie surnaturelle. Alors nous avons vu dans... Oui, donc ça je vous disais pardon... Nous avions vu qu'il y avait du coup, pour la vie, cette visée surnaturelle, Dieu veut faire de nous des fils, ce que nous appelions également la béatitude, mais nous avions vu aussi que dans cette bonté avec laquelle Dieu a créé l'univers, eh bien, qu'il y a également une vie naturelle, la vie des plantes, la vie des animaux, mais aussi notre vie en tant qu'hommes et femmes placés ici-bas sur la terre. Ça ne veut pas dire qu'il y a 2 vies distinctes, mais ça veut dire véritablement que dans cette vie ici-bas sur la terre, nous sommes déjà appelés à nous préparer à cette vie surnaturelle que le bon Dieu nous promet. Dans la vie naturelle, nous avons dit, ben voilà qu'on naît, il y a la naissance. Eh bien, voilà que dans la vie surnaturelle correspond le sacrement du baptême. Voilà qu'avec le baptême, nous naissons à la vie surnaturelle. C'est ce que le Seigneur déclare, il faut naître de l'eau et de l'esprit. Nous avons vu ensuite que dans cette vie naturelle, nous grandissions, nous nous fortifions. Eh bien voilà pourquoi le bon Dieu a voulu instaurer pour nous le sacrement de la confirmation, pour que nous soyons nous aussi fortifiés par ce sacrement, fortifié par la présence de l'Esprit-Saint qui vient demeurer en nous, saint Paul nous le déclare, nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'Esprit-Saint vient établir en nous sa demeure. Et on comprend bien là qu'il agit en imposant une empreinte importante, nous devenons le temple du Saint-Esprit, il est en nous. Ensuite, dans cette vie naturelle, nous disons, nous prenons de la nourriture. Mais voilà que pour la vie surnaturelle, il ne suffit pas, le Seigneur nous le dit, de manger du pain, mais également toute parole qui sort de la bouche de Dieu, et ces paroles de Dieu que nous entendons, c'est « prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous, prenez, buvez, ceci est mon sang versé pour vous ». Nous sommes nourris par le corps du Christ, mort et ressuscité, dans ce sacrement de l'autel, dans le sacrement de l'Eucharistie. Dans cette vie naturelle, nous disions qu'il nous fallait trouver des remèdes contre la maladie. Dans la maladie, il y a le mot « mal ». Comment le mal est entré dans le monde en conséquence du péché. Voilà quelle est donc la véritable maladie, une maladie surnaturelle qui vient comme étouffer, qui vient comme même couper la vie de la grâce qui nous unit dans cette amitié avec Dieu. Et bien voilà que nous avons un grand remède contre les maladies de l'âme, les maladies donc de l'âme qui sont dues au péché, dans le sacrement de la confession. Et le Seigneur, vous le savez, envoie les apôtres à aller pardonner les péchés en son nom. Et enfin, puisque nous avons vu, voilà, après les remèdes contre la maladie, que nous arrivons au moment où la vie de la terre se finit, eh bien au moment de la mort, il y a ce que l'on appelle l'extrême onction. L'extrême onction qui va effacer les restes de nos péchés et qui va nous aider à demeurer fidèles au bon Dieu jusqu'à la fin, jusqu'à ce moment de la Pâque où nous paraîtrons face à Dieu en âme dans l'attente au dernier jour de la résurrection de la chair. C'est également ce sacrement que nous appelons le sacrement des malades qui est là pour nous redonner la vie, la rendre, comme on dit dans le sacrement, à la vie de sa famille, à la vie de l'Église, mais également pour nous préparer à recevoir et à rencontrer plutôt le bon Dieu. Donc vous voyez, entre la vie naturelle et la vie surnaturelle, il n'y a pas une grande séparation. Le Seigneur reprend les mêmes étapes de la vie naturelle pour nous faire entrer dans cette vie surnaturelle. Nous avons parlé jusqu'alors de ce qui nous concerne personnellement. Et vous voyez que là, nous avons parlé de 5 sacrements, mais qu'il nous en reste encore 2. Dans la vie naturelle, un pays a besoin de chefs. Il nous faut une autorité, il faut être gouverné et toute autorité vient de Dieu. Rappelez-vous, le Seigneur, nous l'entendrons dans la Passion, dire à Pilate, vous n'auriez aucune autorité si vous ne l'aviez reçue d'en haut. Un pays a donc besoin de chefs. Ça, c'est ce qui est vrai dans la vie naturelle, est vrai également dans la vie surnaturelle. Le sacrement de l'ordre, il va venir créer les prêtres, vont venir également ordonner les évêques qui dirigent le peuple chrétien. C'est un sacrement qui leur donne un caractère indélébile. Voilà que les diacres, les prêtres, les évêques sont ordonnés au service de la vie de la grâce, au service de l'Église, au service des fidèles auprès de qui ils sont envoyés. Et donc cette mission de gouvernance et de mission dans l'Église appartient à ce sacrement de l'ordre. Donc un pays a besoin de chefs dans la réalité naturelle, et également dans la vie surnaturelle, il y a besoin de cette autorité qui vient nous conférer la vie de la grâce dans les sacrements. De même que le baptême ouvre à tous les sacrements, il faut également des prêtres pour pouvoir donner et recevoir ces sacrements. Ensuite, nous disions, dans la vie naturelle, donc un pays a besoin de chefs, mais qu'est-ce qui doit faire la légitimité de l'État ? Ce sont les familles. La famille est nécessaire à la société. C'est la cellule fondamentale de la société. C'est un ensemble de familles qui donne naissance à une nation. De telle sorte que si la famille est nécessaire à la société, voilà que le Seigneur, il sanctifie la famille dans le sacrement du mariage et dans l'indissolubilité de ce sacrement. Et nous voyons, alors que nous vivons dans un monde qui a autorisé le divorce, eh bien nous voyons non seulement combien cela a pu profondément affaiblir la famille, mais tout autant la société, lorsque le seul passage était véritablement de se marier, passage d'une famille pour en fonder une autre, c'était le temps des fiançailles, puis le temps du mariage, l'indissolubilité de ce sacrement. Cela donne également le sens de l'engagement, et nous voyons combien dans notre monde, non seulement le divorce a affaibli le mariage, mais a fait également dans une société tout un tas de personnes qui finalement ne s'engagent plus, ou simplement pour un temps, et quand ça ne va plus, eh bien, on arrête tout engagement. Eh bien, on en voit là, ici, la racine. Donc, la famille est nécessaire à la société, le mariage sanctifie la famille. Donc, on voit dans ce schéma, très intéressant, de voir comment la vie naturelle et la vie surnaturelle se complètent. La naissance de ma vie naturelle, le baptême. Je grandis, je me fortifie ici-bas. Je suis fortifié par le sacrement de la confirmation. Nous avons besoin de nourriture ici-bas. Eh bien, nous recevons le Seigneur dans l'Eucharistie. Nous avons besoin de trouver des remèdes contre la maladie. Eh bien, voilà que le Seigneur nous offre le sacrement de la confession. Arrive le moment de l'épreuve, le moment où la vie de la terre finit. Voilà que nous avons l'extrême onction. Nous avons également besoin de chefs ici-bas sur la terre. Eh bien, nous avons également le sacrement de l'ordre qui nous permet d'avoir des prêtres, des évêques pour gouverner le peuple de Dieu. La famille est nécessaire à la société. Le mariage vient sanctifier la famille. Ensuite de quoi, il y a quelques questions que nous allons entendre et que je vais commenter. Première question, qu'est-ce qu'un sacrement? Nous venons d'en parler. Le sacrement, c'est donc un signe sensible institué par notre Seigneur Jésus le Christ pour produire ou augmenter la grâce dans nos âmes. Pourquoi est-ce que le sacrement est un signe? Le sacrement est un signe parce que le sacrement représente, par les gestes et les paroles, la grâce invisible qu'il produit. Qu'est-ce que le signe sensible d'un sacrement? Le signe sensible d'un sacrement est une chose que l'on peut voir, car je vois l'eau que le prêtre verse sur le front de l'enfant. C'est donc une chose que je peux voir, que je peux entendre. Je vous baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que je peux toucher quand je reçois le sacrement du baptême. Je sens bien que l'eau, si vous voulez, coule sur mon front. Lorsque je vais recevoir une onction à la confirmation, je vais bien sentir effectivement le doigt de l'évêque venir me communiquer l'Esprit-Saint. Il me touche. Donc le signe sensible d'un sacrement, c'est une chose que l'on peut voir, qu'on peut entendre, qu'on peut toucher, mais qui en fait connaître une autre, qu'on ne peut ni voir, ni entendre, ni toucher, c'est la vie de la grâce. Et voyez là, le Seigneur a bien voulu passer aussi par des signes sensibles pour pouvoir nous donner quelque chose que l'on ne peut pas voir. Il y a déjà aussi là, si vous voulez, quelque chose en rapport avec l'incarnation du Seigneur. Si le Seigneur est venu nous sauver en devenant homme, pour venir véritablement nous rechercher, vous voyez qu'il nous connaît suffisamment bien. Il ne propose pas des sacrements qui ne sont pas à notre portée. Nous avons besoin de voir, nous avons besoin d'entendre, nous avons besoin de toucher. Et là, on comprend aussi pourquoi la liturgie doit être soignée et les cérémonies à l'Église. Pourquoi ? Parce que c'est véritablement Dieu qui se donne à moi. Et lorsque je vois quelque chose à l'église, lorsque je l'entends, lorsqu'il m'est donné de toucher quelque chose, voilà que c'est cette vie de la grâce qui me donne. Le signe, voyez, quand le Seigneur institue l'Eucharistie, il dit bien, prenez, mangez, ceci est mon corps versé pour vous. Il a pris le ceci, c'est donc le pain qu'il a pris. Prenant la coupe, il prit le vin en disant, ceci est mon sang versé pour vous. Et que dit-il ensuite ? Vous ferez cela en mémoire de moi. Voyez que pour l'institution du sacrement de l'Eucharistie, non seulement elle a précédé d'abord parce que les apôtres sont devenus évêques, et ensuite voilà qu'il y a véritablement l'institution du sacrement de l'Eucharistie. Pourquoi est-ce que l'Église ne peut pas consacrer avec autre chose que du pain? Parce que c'est le Seigneur qui a pris du pain. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas choisir autre chose que du vin? Parce que c'est le Seigneur qui a pris du vin. Voilà que je ne peux pas faire autre chose. C'est le Seigneur qui a décidé hein, que le pain, avec ses paroles, avec les prêtres, eh bien, deviendrait son propre corps. Et l'Église ne peut pas décider, même dans les pays, oui, même dans les pays où il n'y a pas de pain façonné avec le blé, eh bien, dans les pays asiatiques, ils doivent importer du blé pour façonner les hosties, parce que la galette de riz, ben, c'est pas du pain. Donc on voit à quel point aussi, eh bien, on est tenu de faire et de reproduire ce qu'a voulu notre Seigneur Jésus le Christ. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui touche à l'incarnation même du Seigneur, au fait qu'il ait décidé que ce soit ça et pas autre chose. Et là, l'Église, ni le pape, personne n'a le pouvoir de changer ce que le bon Dieu a choisi lui-même en venant ici-bas sur la terre. Combien y a-t-il de sacrements? Ce fut une grande question au Moyen-Âge, mais là, nous nous en cantonnons à la réponse. Il y a 7 sacrements, le sacrement du baptême, la confirmation, la pénitence, l'Eucharistie, le sacrement des malades, le sacrement de l'ordre et le mariage. Chacun des 7 sacrements donne-t-il une grâce qui lui est spéciale? Eh bien oui, sinon il n'y aurait pas besoin qu'il y ait 7 sacrements. Oui, chacun des 7 sacrements donne une grâce qui lui est spéciale et qu'on appelle la grâce sacramentelle. Par exemple, quelle est la grâce sacramentelle du sacrement de la confession? Eh bien, c'est qu'il vient pardonner les péchés et qu'il vient également, il ne faut jamais oublier ça, bien sûr, le bon Dieu nous pardonne dans nos péchés, alors avec des conditions, hein, si nous décidons, si nous faisons vraiment amende honorable, si nous avons vraiment recherché où se trouve notre péché, si nous regrettons notre péché, si nous prenons la résolution de ne plus recommencer, c'est pas, ça demande aussi une part de notre part d'un engagement. Mais du coup, il y a une grâce spéciale. À la fois, le Seigneur pardonne les péchés, mais il va également donner une grâce de persévérance pour mener le bon combat, pour nous efforcer eh bien, de ne pas retomber toujours dans les mêmes fautes. Quels sont les sacrements que l'on ne peut recevoir qu'une seule fois? Les sacrements que l'on ne peut recevoir qu'une seule fois sont le baptême, la confirmation et l'ordre. Et la question suivante va nous dire pourquoi ne peut-on recevoir qu'une seule fois ces sacrements? Nous l'avons vu, on ne peut recevoir qu'une seule fois ces sacrements parce qu'ils ont pour but de nous consacrer pour toujours au service de Dieu. Voilà pourquoi ils impriment dans l'âme une marque ineffaçable qu'on appelle caractère. Hein? Et en dehors de ces 3 sacrements, les autres, nous pouvons les recevoir. Le sacrement de la confession, hein, que nous pouvons recevoir régulièrement, et nous ne pouvons que le conseiller, parce qu'on comprend qu'il faut bien laver son âme, puisque nous recevons le bon Dieu dans la communion. De même, le sacrement du mariage. Le sacrement du mariage peut être reçu plusieurs fois, lorsque nous parlons du cas du veuvage. Voilà. Mais il y a 3 sacrements qui, eux, impriment une telle marque en nous, eh bien, que l'on ne peut recevoir qu'une seule fois. Le baptême, la confirmation et le sacrement de l'ordre. Alors, la plupart des chrétiens ne reçoivent que 2 sacrements qui ont un caractère, c'est-à-dire le sacrement du baptême et de la confirmation, et le prêtre ou l'évêque ou le diacre même en ont 3, puisque le sacrement de l'ordre demande à ce que ce soit un vir qui reçoive. Je le dis le mot en latin, parce que vir, c'est l'homme de sexe masculin. Je vous ai dit tout à l'heure, pour le sacrement de l'Eucharistie, le Seigneur a pris du pain et du vin. Ben voilà, le pain, c'est du pain de blé, et le vin, c'est du vin, fruit de la vigne. Voilà ce que le Seigneur a choisi. Il a donné des paroles qu'il faut prononcer, en étant prêtre, bien sûr, ceci est mon corps livré pour vous. Mais pour le sacrement de l'ordre, eh bien, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut un homme de sexe masculin. C'est ce que le Seigneur a choisi, et nul ne peut venir changer le sacrement que le bon Dieu a instauré. De même en est-il du sacrement du mariage. Qu'est-ce qu'il faut pour le sacrement du mariage? Eh bien, il faut un homme de sexe masculin, et il faut une femme de sexe féminin. Aujourd'hui, nous sommes obligés de tout préciser. Pourquoi? Puisque le sacrement du mariage, hein, c'est véritablement ce qui vient sanctifier la famille, mais ce n'est pas simplement un homme et une femme qui forment une famille, c'est également l'accueil des enfants. Voilà. Donc du coup, on a beau essayer par tous les moyens d'aujourd'hui, avec des idéologies différentes qui viennent battre hein, la barque de pierre comme des vagues qui voudraient la faire chavirer, mais lorsqu'on a un minimum de catéchisme, eh bien, on comprend que le Seigneur a choisi ces sacrements. Ils ont une limite, puisque en prenant du pain et du vin, le Seigneur a exclu toute autre chose. Lorsque c'est le mariage, c'est un homme de sexe masculin et une femme de sexe féminin. Et pour le sacrement de l'ordre, eh bien, il faut un homme de sexe masculin. Sinon, cela ne marche pas. Ça veut dire que le sacrement n'est pas valide. Qu'est-ce qu'il me faut pour que la messe soit validement célébrée? Alors, il ne me faut pas quelqu'un qui va chanter les chants, il ne nous faut pas forcément des bougies, il ne nous faut pas des fleurs, il ne nous faut pas... Bien sûr, tout cela va être important pour solenniser le moment, pour manifester notre attachement au Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que cela soit valide? Il me faut un prêtre. Un prêtre, c'est-à-dire un homme qui a été lui-même ordonné par un évêque. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Il faut du pain, il faut du vin, il faut qu'il prononce les paroles de consécration. Alors là, c'est un petit peu... Et il faut également, pardon, aussi qu'il consomme ce sacrifice. Il doit lui-même communier. Voilà la validité, si vous voulez, du sacrement. Donc on comprend ensuite que si on commence à faire des ordinations avec, non pas un vir, c'est-à-dire un homme de sexe masculin, mais une femme, ça ne peut pas marcher. Comme ne pourra pas marcher si je décidais de baptiser avec du lait. Ben non, il faut que ce soit de l'eau. Voilà comment le Seigneur aussi a institué ces sacrements et comment aussi nous respectons la loi d'incarnation du Seigneur. Et là, nul ne peut changer ce que le Seigneur a instauré. Donc voilà un petit peu ce qu'il faut dire sur ce que sont les sacrements, et nous approfondirons plus particulièrement le sacrement de la confirmation la semaine prochaine.